vie en nomade. Le direct.
Nous sommes le jeudi 9 octobre et nous vous souhaitons la bienvenue sur Pavillon Nomade dans notre studio sur le site de Malévo. Aujourd'hui, le temps est clément. Les châtaigniers qui nous entourent laissent pleuvoir leurs bogues pour le plus grand plaisir des badauds. Le parc prend des allures de tableau aux couleurs automnales. Pavillon Nomade, c'est une heure de partage, des rencontres, de la culture et des échanges. C'est également des participants, des chroniqueurs et des invités. J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Eliane et Christian, ainsi que Gabriel Binder, qui nous fait le plaisir d'être accompagné par un artiste écrivain au parcours atypique, avec qui nous allons faire connaissance, José Luis Toribio, alias Cilien Larios. Bonjour à tous. Bonjour José Luis.
Bonjour à tous.
Alors, vous avez un nom à consonance latine. Quelles sont vos origines ?
Je suis d'origine espagnole, de Madrid, pour être exact.
Et vous avez grandi en France ?
À Coulommiers. Je suis né à Coulommiers et j'ai grandi en Seine-et-Marne. Je me définis comme un briard.
Très bien.
Ça veut dire quoi, un briard ?
L'abri, c'est l'ancien nom de la Seine-et-Marne, c'est l'abri. Et les habitants, c'est les briards. Il y avait même un journal quand j'étais petit où le professeur, mon instituteur, il écrivait dedans, qui s'appelait Le Pays Briard, qui existe encore. Et là, le premier souvenir que j'ai d'écriture quand j'étais petit, c'était une fois à l'armistice. En France, on fête toujours l'armistice le 14 novembre ou le 11 novembre. J'ai un petit trou de mémoire de la Première Guerre mondiale. Et j'avais été au défilé et j'avais été voir le discours du maire devant le monument aux morts de la Ferté-Gaucher. Et mon professeur, il avait un carnet et je le voyais en train de rédiger un article pour Le Pays Briard et ça m'a marqué les esprits. Et je devais avoir 10-12 ans à l'époque. Ça m'a marqué les esprits.
Et donc, Le Pays Briard, donc vous avez dit Coulommiers, moi, si j'ai un... Il me semble, ce n'est pas le nom d'un fromage aussi.
Si, c'est le nom d'un fromage, Coulommiers.
Et c'est le Brie, non ?
Le Brie, c'est, ben justement, c'est comme le fromage, le Brie.
Et c'est de cette région ?
Ça vient de cette région, je pense. Après, je ne sais pas s'ils sont tous fabriqués là-bas, mais si, il y a le Coulommiers et le Brie de Meaux. Le Meaux, c'est à côté de la Ferté-Gaucher aussi. Quand j'étais petit, c'était les deux grandes villes qu'il y avait à côté de la Ferté-Gaucher. Dans le canton où j'étais, il y avait Coulommiers, qui était à 20 km et Meaux à 40 km.
Et comment avez-vous vécu cette enfance dans le pays briard ?
Ben, j'ai vu les choses changer depuis tout petit. Je suis né en 70. Je me souviens que quand j'étais petit, j'allais faire les courses à la ferme et acheter le lait à la fermière. Il y avait la COP, ce qu'on appelait la COP. Je crois qu'en Suisse, ça existe aussi.
Oui, la COP.
Il y avait quand même des produits d'assez bonne qualité. Mmh. Il y avait le plein emploi à l'époque. Les voisins, ils faisaient des fêtes entre eux. Et j'ai vu les choses se détériorer. J'ai déjà vu quand les supermarchés sont arrivés à la Ferté-Gaucher. Donc j'ai quand même vu qu'il n'y avait plus la même qualité entre le lait, le fromage qu'on achetait. Et même le pain, c'était plus le même. Mmh. Quand j'étais petit, j'allais l'acheter à la COP ou à la boulangerie du coin. Et après, j'ai vu le pain industriel. J'ai vu les choses se détériorer. Mmh. Mais je ne vais pas être nostalgique de l'ancien temps. Il y a quand même Internet et on vit quand même mieux qu'avant. Mais il y a quand même une petite nostalgie malgré tout.
Puis vous, vos parents, les Espagnols, c'est eux qui ont migré ?
Oui, mon père est émigration économique en 60. Il est venu parce que l'usine de la Ferté-Gaucher de céramique, ils avaient besoin de main-d'œuvre, donc ils ont pris dans les pays à côté. Et ma mère, elle était venue accompagner son frère qui travaillait à Villeroy-et-Boc, et elle est restée en France quand elle a connu mon père. Donc c'est immigration économique et pas du tout politique. Parce que quand on croit que l'immigration espagnole en France, c'est forcément dû au franquisme ou à l'antifranquisme, non, il y a aussi économique. Après, l'économie, c'est que le régime, il n'est pas bon non plus. Donc, c'est quand même politique malgré tout.
Êtes-vous domicilié en Suisse actuellement ?
Non, je suis domicilié à Saint-Ouen en France. Et la première fois que je suis venu en Suisse, c'est parce que j'ai la chance d'être le parrain d'une petite Suissesse. Je suis venu en Suisse en 2010 pour la première fois. Et j'ai eu le bonheur de venir à Malévo pour écrire la tour de Malévo, une résidence artistique. Et là, je suis resté 2 mois complet en Suisse, à Malévo.
C'était en quelle année ?
C'était en 2015.
Et comment avez-vous vécu cette résidence ?
Ben, j'étais heureux. J'étais vraiment heureux. J'avais vécu la grève d'Aulnay. Et j'étais quand même au travail à la chaîne, qui sont quand même des cadences consternantes, affligeantes. Et j'étais usé par le travail et même par les grèves. Il y avait des dissensions dans les syndicats et dans plein de choses. Et quand je suis arrivé ici, j'étais apaisé. Comme je dirais que c'est, j'ai voulu faire, quand je suis arrivé ici, j'ai pensé au personnage de la tour, pas de la tour, pardon, de Thomas Mann, de la montagne magique. Et quand il est à la montagne magique, il est heureux. Il découvre un nouveau monde. Je découvrais des personnes que je connaissais pas. J'étais superbement bien accueilli. J'ai eu des échanges culturels, alors qu'avant, j'en avais pas vraiment. Donc, ça m'a apporté beaucoup. C'est du bonheur, que du bonheur.
Je vois que vous avez deux prénoms, José Luis et Sylvien.
Sylvien.
Sylvien, oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces deux prénoms ?
La première fois, les deux premiers livres que j'ai publiés, ils ont été publiés sous pseudonyme. Déjà, le premier, il racontait quand même la grève d'Aulnay. J'étais encore salarié d'Aulnay. Et il y avait quand même risque d'avoir des problèmes avec mon employeur parce que... Il y en a, quand ils écrivent sur les usines, ils édulcorent. Et moi, j'attaque directement quand même un patron qui licencie les ouvriers. Je montre comment il magouillait les accidents de travail, comment il y avait des problèmes de racisme. Mais je montre quand même qu'il y avait des bons chefs à Aulnay aussi. Mais ils peuvent quand même être gênés. Et même les personnes citées dans le livre, même si c'est... si c'est des personnages de roman, ils peuvent mal le prendre. Après, j'avais pas vraiment peur. Tout le monde a su que c'était moi qui avais écrit le livre. Mais par confort, j'ai pris un pseudonyme, Sylien. Le prénom Sylien, c'est un personnage d'un film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Le Doulos, où le personnage, on sait pas s'il est avec les truands ou avec les flics, mais c'est la personne qui distribue c'est comme. Comme Harlequin, il distribue les bons points, il distribue les plats entre les divers personnages du film. Et moi, c'est l'ambition que j'avais en écrivant l'usine des cadavres. C'est de distribuer les plats entre tous les personnages que j'ai rencontrés, bons ou mauvais, les faire participer et être un peu l'Harlequin de service.
Et pourquoi Larios ?
Larios, c'est un jean, c'est une marque de jean GIN, pas le jean, la boisson espagnole, Larios. C'est pour ça que j'avais pris Larios.
Parce que tu aimes le jean ?
Parce que j'aime le jean, voilà.
Mais on va un peu vite, parce qu'on parle d'une usine à Aulnay, mais nous, on est voisins, on ne connaît pas. C'est quoi cette usine ? Vous pouvez la décrire un peu ?
Oui, je vais la décrire. C'était une usine, ce qu'on appelle en France une usine terminale. C'est une usine où tu fabriques toute la voiture. Tu vas juste de l'emboutissage, tu emboutis les pièces, par exemple pour faire les capots, les portières, les toits, tous les éléments de la voiture. Après, ils sont assemblés au ferrage, c'est là où je travaillais. Une fois que la carrosserie est assemblée, elle est finie en peinture ou elle est peinte, par des conditions quand même assez difficiles. Ce que je dis dans la suite, dans l'usine, c'est que c'est des conditions... T'as l'impression d'être dans un film de science-fiction parce que tu vois des gens en tenue de cosmonaute en train de peindre les voitures, mais c'est les conditions de travail du 19e siècle. Après, ça atterrit au montage où les sièges sont montés, les moteurs, les vitres, tout ce qui constitue une voiture. Et c'est des jockeys qui prennent la voiture et qui la montent dans les wagons pour qu'elle soit commercialisée.
Et alors, c'était quelle marque de voiture ?
C'était Citroën. Quand je suis arrivé, c'était Citroën Aulnay. Après, c'est Peugeot, PSA. Ça s'appelait PSA. On faisait Citroën et Peugeot. Des Citroën et des Peugeot.
Et combien d'années il est dans cette usine ?
L'usine, elle a ouverte en 73 et elle a fermé en 2013 avec la plus longue grève du 21e siècle. Ce que je raconte d'ailleurs dans l'usine.
Mais vous avez travaillé combien de temps dans cette usine ?
De 91 à 2013.
Alors, ça fait presque 30 ans ?
Oui, 32 ans.
32 ans à l'usine à fabriquer des voitures et on m'a dit que vous n'avez pas le permis de conduire.
Eh ben, c'est des paradoxes. Maintenant, j'ai réparé ce paradoxe, mais je n'ai jamais vraiment eu le temps de le passer. J'étais tellement accaparé par d'autres choses. Mais maintenant, c'était un paradoxe. Il en faut dans la vie.
Donc, comment passe-t-on du monde d'ouvrier à l'écriture littéraire ?
Ben, j'ai toujours aimé lire depuis ma tendre enfance. Ma maman me donnait des livres. Donc, je lisais en bibliothèque verte Les Misérables, Le Comte de Monte Cristo. J'ai toujours aimé la littérature. Et même si j'étais un cancre à l'école, en rédaction, j'ai toujours eu du 15 sur 20 et même des notes assez importantes. Mmh. l'écriture. Après, j'ai pas vraiment écrit, sauf à l'usine. Des fois, j'écrivais les lettres pour des collègues de boulot. Mais quand il y a eu, je crois que c'est 2010, dans ces alentours-là, quand j'ai vu que l'usine allait fermer, j'ai vu les réactions qu'il y avait. Là, je me suis dit, je tiens peut-être le sujet d'un livre, et je notais tout ce que j'entendais. Puis aussi, grâce à Yvan Saint-Saulieu et Muriel Surdet, qui sont des sociologues, j'ai connu une sociologue qui s'appelle Claudia Dubuis. Et je correspondais avec elle. Elle me posait des questions et je lui racontais mes histoires de l'usine. Donc, elle me relançait, elle me posait des questions. Et un jour, elle me dit « J'espère que tu gardes les mails que tu m'envoies, parce que moi, au bout d'un moment, je les efface. » Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Bah si, j'en ai quand même... » Heureusement que je les avais gardés. J'en avais quand même un certain nombre. Et je me suis dit « Là, il y a peut-être la matière à faire le livre. » Et après, j'ai travaillé le texte et c'est venu comme ça.
J'ai pu voir aussi que vous aviez la militance était quelque chose d'important pour vous. Quelle place elle prend dans votre vie ?
Ben maintenant c'est plutôt fini, mais elle a quand même duré pendant mes années à Aulnay de 92 à. Enfin, j'étais rentré en 91, mais en 92 je suis rentré à la CGT jusqu'à la fin. Elle a quand même tenu un poids très important. D'ailleurs, je peux même raconter. À Aulnay, ils n'aimaient pas les syndicats de gauche. Et pour prendre ma carte à la CGT, il y avait des délégués qui distribuaient un tract à l'entrée de l'usine. Et pour prendre contact, j'avais griffonné mon numéro de téléphone. Et je lui avais serré la main. Et en lui serrant la main, il récupérait mon numéro de téléphone. Parce que les chefs, ils venaient voir. Des fois, il y avait même des licenciements. Il y avait une répression syndicale. Très forte.
Mais dans votre livre, vous expliquez qu'il y a la CFDT, la CGT, et puis il y a beaucoup de conflits entre ces syndicats.
Oui. Là, c'est simple. Tous les syndicats, sauf la CGT, ils étaient à la botte de Citroën. On peut dire que c'était des syndicats maison. Donc, ils avalisaient les plans de... Ils aidaient la direction d'Aulnay à magouiller les accidents de travail. Quand il y avait des CE, ils votaient avec le patron... Donc c'est comme là, il y a la CSL ou l'ancienne CFT. Dans l'usine, j'ai gardé le nom CFT. C'est quand même un syndicat qui est lié au SAC. Et il faut savoir que ce syndicat, s'il a changé de nom, s'il est devenu de CFT, il est devenu CSL, c'est parce que dans les années 70, il y avait un militant de Reims qui s'appelait Pierre Auvernet. Il y avait une camionnette qui avait foncé sur un piquet de grève et il était décédé. Et comme la CFT était éclaboussée, ils ont changé de nom. D'ailleurs, il y avait une manif à l'époque où il y avait 20 000 personnes, dont Jean-Paul Sartre. Donc à l'époque, l'extrême-gauche faisait encore des voix.
Oui. La CGT, nous, on a le souvenir, il y avait Krasouki et qui était le bras gauche après, du Parti communiste. Comment il s'appelait, le leader du Parti communiste
pendant des... Georges Marchais.
Georges Marchais. Alors, pendant des années, il y avait ce gros Parti communiste, la CGT, qui fonctionnaient ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste plus rien de ce...
Non, malheureusement, là, j'étais à la fête de l'UMA. On m'a parlé d'un succès parce qu'il y avait 450 000 personnes à la fête de l'UMA. J'ai dit, mais à la belle époque, c'était 7 millions de personnes qu'il y avait. Même encore, quand j'y allais dans les années 90, il y avait 700 000 personnes. Donc là, malheureusement... Le Parti communiste, voilà, il a périclité avec la chute du mur de Berlin. Ils n'ont pas su, prendre, la critique et ils étaient tellement liés à Moscou que. Mais une fois, quand j'étais petit, je reviens souvent à mon enfance. J'étais en train de regarder Moi, j'adorais Georges Marchais parce que c'était quand même un personnage pittoresque. Mais même encore là, j'ai une nostalgie pour lui. Mais je l'avais vu interviewé par Yves Mourouzi. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il était à Moscou, il était interviewé par Yves Mourouzi, il faisait du Georges Marchais. Mais après, la caméra, il a quand même s'est agrandie et on a vu que Léonid Brejnev était à côté de Georges Marchais. Donc ça veut carrément dire que toute la France a vu que c'était la marionnette de Léonid Brejnev. Et je pense que c'est à partir de cette période-là qu'il a commencé à...
Une perte de crédibilité.
À perdre du crédit. Donc, mais il y avait Pif Gadget, c'est quand même une nostalgie. Hein. Il y a une... L'une des correctrices de l'usine, elle m'a dit qu'une fois, elle était chez, elle avait été interviewée, comment il s'appelle celui d'Angélique, Robert Hossein, qui est quand même pas un homme de gauche. quand il lui avait dit que c'était qu'elle était journaliste à l'Humanité, il m'a dit, il lui a servi deux fois des gâteaux. Et après, je vais raconter une autre anecdote, mais peut-être que Gabriel va dire quelque chose.
Alors moi, j'ai une autre anecdote. Normalement, je ne devrais pas les raconter, mais je suis allé il y a très très longtemps en Hongrie, puis on m'a fait visiter une usine. Et dans cette usine en Hongrie, c'est là qu'on a privé les Pif Gadgets. C'est des petits journaux pour enfants, des petites bandes dessinées de Pif le chien.
Oui.
En fait, les éditions là, de Pif Gadget, c'était Parti communiste et c'était imprimé dans la Hongrie communiste. Vous saviez ça?
Je ne le savais pas. Moi, j'aurais cru que c'était imprimé à Coulommiers, à l'imprimerie Baudard et Taupin. Eh bien, voilà, ben, j'en suis...
Par contre, aujourd'hui, le grand leader de la gauche, c'est Mélenchon.
Oui, Mélenchon. Oui.
Et il paraît que vous l'avez rencontré trois fois.
Oui, trois fois dans ma vie. C'est pas... Je vais raconter les trois. La première fois, je l'ai rencontré à... J'étais en train de me promener à Saint-Germain-des-Prés. On ne peut pas dire que ça soit un quartier populaire. Il était pas habillé populaire. Je dirais même qu'il était habillé en Yves Saint-Laurent. Et il faisait quand même le grand seigneur. La deuxième fois, je l'ai fait rentrer à l'usine d'Aulnay pendant la grève. Et la troisième fois, j'ai failli l'écraser en vélo à Gare de l'Est. Je circulais en Vélib. Et il y avait un groupe devant moi. Et je fonce sur le groupe. Après, j'esquive le vélo. Et je vois qu'il y avait Mélenchon. Et la deuxième fois, l'horreur que j'ai eue, c'est de ne pas l'avoir tutoyé. Il y en a même quelqu'un, il m'a dit, la prochaine fois que tu le vois, tu le tutoies. Mais là, à mon après, ça ne se reproduira plus. Et même si je le vois, je l'appellerai Monsieur Mélenchon.
Et vous, personnellement, vous êtes engagé en politique ?
Je l'ai été, mais maintenant, je suis ça de loin. Je suis quand même l'actualité politique consternante qu'il y a en France, comme tout le monde, mais je ne vois pas... Là, je ne suis plus engagé dans la militance, ça c'est sûr.
Alors, vous avez écrit « L'usine des cadavres » qui a été publiée aux éditions Libertaire. Et là, vous sortez un nouveau bouquin qui vient de sortir de presse il y a moins d'un mois à la Manufacture des Livres, qui est une édition prestigieuse. Et si j'ai bien compris, il y a une parenté entre les deux. On trouve une partie du premier dans le second.
Oui, Vous pouvez m'expliquer
un peu quels sont les liens de ces deux livres ?
Les liens, c'est que j'avais rencontré l'éditeur à une soirée littéraire. J'avais discuté avec lui. Il était intéressé par mon parcours. Il m'avait demandé... J'avais dit que j'avais un manuscrit qui racontait la grève d'Aulnay, qui est quand même la plus longue grève du XXIe siècle. Il m'a dit qu'il était intéressé. Je lui ai envoyé le manuscrit. Après, il m'a convoqué. Il a quand même trouvé que raconter que la grève d'Aulnay, ce n'était pas assez. Que je raconte aussi toutes les années que j'ai eues à l'usine. Donc, je lui ai parlé de l'usine des cadavres. Je lui ai envoyé. Et là, on a pris une partie de l'usine des cadavres qui raconte quand même mon arrivée à l'usine et les grèves de 82. Toutes les grèves qu'il y a eu dans l'usine, tous les événements majeurs qu'il y a eu que des collègues m'ont raconté. Donc, dans la première partie de l'usine, il y a ça. Et moi, j'incite vraiment les gens à acheter mon livre. Parce que moi, je dis à tout le monde que celui qui achète mon livre, il verra qu'est-ce que c'était que l'usine aux premières loges. L'usine d'Aulnay aux premières loges. Il verra la vie quotidienne des ouvriers, le travail à la chaîne, comme s'il y était. Donc, c'est quand même un monde qui disparaît en France. Donc, c'est l'occasion de voir comment était le boulot. Et la deuxième partie, ça sera la plus longue grève du XXIe siècle. Raconté de manière, excusez du terme, mais assez hallucinante. Voilà, il y a du fantastique.
La plus longue grève, ça veut dire combien de jours ?
Elle a duré 18 semaines. 18 semaines. Maintenant, c'est impensable. Une grève au XXIe siècle qui dure 18 semaines. Elle a commencé en hiver et elle a fini au printemps.
Et 18 semaines, ça veut dire que vous êtes présent sur l'usine, vous n'avez pas de salaire.
Oui.
Mais vous êtes présent tous les jours.
Voilà. Et puis après, on allait manifester à l'extérieur. Il y avait une caisse de grève qui s'était monté. Si à l'époque, j'avais eu le plaisir de connaître Gabriel Binder, il aurait sûrement participé à la caisse de grève. Il y aurait eu des collectes à Malévo. Mais il y avait une collecte interne. Mais même des gens, ils donnaient dans du monde entier. Hein. Des fois, on avait même des salaires de 1000 euros par mois. La perte était grosse. Et même il y avait même des épiceries, des restaurants qui nous aidaient. Après, il y a eu des militants alternatifs qui sont rentrés dans l'usine. Ils nous apportaient des denrées, on faisait à manger. Donc,
mais vous vivez quasiment dans l'usine ?
Non, on rentrait.
Non, mais il y avait tout un quelqu'un.
Tous les jours, on rentrait à l'usine. Et après, il y avait quand même les non-grévistes qui étaient terrés dans l'usine. Mais ça, c'est raconté dans le livre aussi.
Terré dans l'usine, ça veut dire
terré dans l'usine comme des rats, c'est ce que je dis dans le livre.
Mais ils faisaient quoi? Ils travaillaient?
Ben, ils travaillaient ou ils faisaient semblant de travailler parce qu'il n'y avait plus de voitures qui sortaient. Après, j'avouerai que ce qu'ils faisaient exactement... je sais que quand on manifestait dans l'usine, ils allaient se cacher. Donc, ce qu'ils faisaient exactement, je ne peux pas dire. Mais, ça, mais des fois, ils allaient faire le jaune dans d'autres usines. Donc...
Est-ce que vous pouvez quand même essayer d'expliquer un peu mieux? Parce que j'essaye de voir une usine, mais c'est à quelle taille? C'est la taille d'un terrain de football ou c'est la taille d'un hôpital? C'est comment, c'est une usine?
C'est une usine immense. Qui, où il y avait, quand je suis arrivé, il y avait 7000 personnes. Donc, c'est... Je dirais, c'est 4 fois Malévo, je dirais. Elle doit faire au moins 4 fois l'hôpital de Malévo.
En surface,
ouais. En surface, oui, je dirais. Je circulais même en vélo. Pour, quand je partais en délégation... Pour aller du montage, du ferrage ou au montage, ou du montage au ferrage ou au parc, je prenais un vélo pour circuler. Même dans les ateliers du ferrage et dans les ateliers du montage, pour y circuler en vélo, il fallait le faire en vélo. Et c'est dire les distances qu'il y avait. Hein.
Comment vos chefs géraient en fait toute cette immense... énormément de personnel, 7000 personnes, oui. C'est impressionnant. Et c'était style régime militaire?
Oui, c'était très hiérarchisé, très militarisé. Il y avait plusieurs ateliers. Il y avait un chef, il y avait un sous-chef. Et c'était quand même, des fois, quasiment garde à vous quand le chef, il arrivait et tout.
J'ouvre le livre au hasard.
Oui.
Et parce que vous avez parlé tout à l'heure de votre lien à la littérature, j'ouvre au hasard. Je tombe sur la page 158. Deezer aura été pour moi pareil à la découverte du micro-sillon pour le héros de La montagne magique de Thomas Mann. À la chaîne, je digressais jamais assez. Si j'ai tenu, c'est grâce à la musique me passant dans ma cervelle en continu pour commencer la musique des trois R, Mahler, Bruckner, Wagner. Est-ce que vous pouvez expliquer justement comment on fait quand on est comme une partie d'un monstre mécanique pour rester vivant, et vous utilisez le cinéma et la littérature, la musique. Expliquez-moi un peu comment votre rapport.
Mes collègues de travail, ils utilisaient leurs souvenirs, et ils m'ont dit qu'ils faisaient la même chose que moi. Ça devait être une autre musique, mais le temps, le 8 heures à faire des pièces, c'est quand même très long, donc on est obligé d'avoir un monde intérieur. Donc mon monde intérieur, moi, c'était de penser au film... ou de me passer des morceaux de musique que je connaissais par cœur pour passer la journée de travail. Mais je sais que les autres collègues, ils faisaient à peu près la même chose que moi. Ils perdaient la raison, ils vont s'ennuyer. Mais je sais qu'il y en a qui étaient aussi staccanovistes. Par exemple, eux, ils avaient l'objectif de faire le maximum de pièces et ils se concentraient comme si c'était de la compétition sportive. Là, ils rendaient service au patron, ils s'aliénaient le reste du travail de leurs collègues de boulot parce qu'ils allaient dire on va être obligés, ils vont nous monter les cadences à cause d'eux. Mais tout le monde avait ses techniques de travail. Et je crois que Linhart, dans son livre, il dit à peu près la même chose pour s'évader de la chaîne.
Et pendant ces 8 heures, vous aviez droit quand même à des moments de repos?
Oui, on avait deux pauses, une pause de 10 minutes le matin... une pause de 7 minutes l'après-midi et 35 minutes pour manger. D'ailleurs, chaque fois que je mange, même dans mon travail, les gens ils sont étonnés à la vitesse à laquelle je mange. J'ai gardé...
Et puis en plus, ça c'est la pause, mais il faut prendre le vélo pour la cantine.
Non, là c'était... oui, non, mais là la cantine, elle n'était pas trop loin, mais on perdait quand même 5 minutes pour y aller, 5 minutes pour revenir sur la demi-heure. Non, là, c'était les privilégiés qui prenaient le vélo. Là, quand je prenais le vélo, c'est pour aller en délégation, mais pas pour aller à la cantine.
Une dernière petite question par rapport à ce livre, avant qu'on passe au thème de la tour de Malévo, peut-être. C'est, vous parlez des barbus, des jansénistes, parce qu'il y a aussi des mouvements religieux qui sont actifs dans l'usine.
Oui, malheureusement, oui. Oui. D'ailleurs, à l'usine d'Aulnay, il y a plein de collègues de boulot. Après, à juste titre, tout le monde a le droit d'être croyant, mais s'ils allaient faire la prière sur leur temps de travail. D'ailleurs, quand ils ont fermé l'usine d'Aulnay, il y en a qui ont stigmatisé en se disant c'est parce qu'il y avait trop de prières qu'ils ont fermé l'usine d'Aulnay. Bien sûr, c'était faux. Et en 82, quand il y a eu la grève, la grande grève de 82, un ministre de gauche comme Pierre Mauroy a quand même trouvé le moyen de dire que c'était la grève des ayatollahs. et que c'était instrumentalisé par l'Iran. Alors, ils ne savaient même pas que l'Iran, c'est des chiites, ou alors ils le savaient, mais ils faisaient semblant de ne pas le savoir, alors que les Marocains et les Algériens, c'est plutôt des sunnites. Mais ils stigmatisaient ça. Mais oui, la religion, elle a une part importante. Je ne vais pas dire... Chacun peut avoir les croyances qu'il veut avoir, et je ne vais pas critiquer là-dessus. Voilà. Mais ça a une part importante.
Donc, on va revenir à la tour de Malevo, donc lors de votre résidence en 2015. Donc, donnez-nous envie de lire ce livre.
Bah, écoutez, la tour de Malevo, c'est un ouvrier. Il est dans une usine qui va fermer. Il a le quotidien qui est noir. Et il voit par une amie qui s'appelle, que je vais renommer, qui s'appelle Claudia Duby. Elle me dit que monsieur Gabriel Binder, ici présent, il cherche du monde pour une résidence artistique en Suisse. Elle me dit, tente ta chance. Moi, je tente ma chance. J'y envoie une lettre en lui disant à peu près les problèmes que j'ai, en disant que j'ai écrit un livre et que je serais tenté de faire une résidence artistique dans les montagnes suisses, que ça sera peut-être même moi qui aurais peut-être plus besoin, j'ai même dit dans la lettre, qui aurait plus besoin de repos que les patients de l'hôpital. Et après, il me répond, envoyez-moi le livre. Je lui envoie le livre, et même pas trois jours après, je reçois un SMS où il me cite une phrase du livre, « Procès de Moscou dans un dé à coudre, il est plié en deux ». Après, on se rencontre dans un café, et il me dit, il me propose de faire la résidence artistique.
Voilà, c'est le contexte. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin alors ?
Eh ben, dans le bouquin, ce qu'il y a, c'est il y a quelqu'un qui découvre un univers qu'il a jamais connu avant, comme le personnage de Thomas Mann de la Montagne Magique. Il voit quand même des montagnes autour de lui, un autre milieu que celui qu'il avait dans les usines. Il voit plus de bruit de machines, il voit les montagnes, il discute avec les patients de l'hôpital. Avec le personnel, les soignants, ceux qui animent Malevo quartier culturel. Et il voit qu'il est traité de manière humaine, il peut échanger, écouter les histoires. D'un côté, pour l'usine des cadavres, j'écoutais les histoires de l'usine et je les ai retranscrits à ma manière. Et là, j'écoute les histoires de l'hôpital de Malevo et je les retranscris à ma manière. Mais là, je suis vraiment apaisé. Parce que même il y a quelqu'un qui a lu mon livre, qui a fait un papier sur le livre, il a dit, on sent que là, il est apaisé, il est heureux d'être à Malevo. Donc, et ça, c'est quelque chose. Et ce que je dis aussi dans la tour de Malevo, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Et ça, c'est ce qui a frappé le narrateur. Il ne sait pas, quand il parle avec quelqu'un, si c'est un patient, si c'est un médecin, si c'est un salarié de Malevo. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et c'est un cocon par rapport à l'adversité où il était avant, il est dans un cocon.
Avant de passer à la rubrique d'Eliane, pour nous plonger dans le monde merveilleux des animaux, j'ai choisi une chanson pour vous, parce que j'ai vu votre site sur Facebook, et j'ai vu que vous étiez dans le désert dernièrement.
Ah oui.
Et puis, ça me fait penser aussi que toutes ces années à l'usine, ça a dû être une grande traversée du désert également. Donc, Jean-Patrick Capdevielle, quand t'es dans le désert.
Merci. Merci. La fédélée, je me suis tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique. Son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdict. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Finissent tous nos strats.
entendu son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés.
Dans la ménagerie d'Eliane.
Alors Eliane, aujourd'hui, allons-nous dans le monde des grands animaux, des petits animaux, des animaux qui volent ? Dites-le-nous.
Aujourd'hui, nous allons parler de petits animaux. Par exemple, le cloporte. Donc c'est une dédicace au Studio 6. La dernière fois, ils m'ont demandé si je pouvais faire un sujet là-dessus. Alors, le cloporte, son corps, il est aplati. Et il se roule en boule pour se protéger. Muni de 7 paires de pattes, il est le rare crustacé à avoir conquis la terre ferme avec succès. Son habitat, les endroits sombres, genre pierrier, cave et jardin. Il se nourrit de détritus et de manière organique. Il vit entre une année et 3 ans. Il est conseillé de ne pas les toucher, vu sa nourriture. La limace, famille des mollusques gastéropodes, son corps mou et tendu lui permet de se déplacer lentement. Elle aime la fraîcheur et vit dans la terre. De couleurs différentes, parfois tachetées, du brun au noir. C'est un animal nocturne et solitaire qui passe ses journées au frais. Ses antennes olfactives lui servent pour détecter des obstacles et des phéromones. Ses tentacules lui permettent également d'explorer son environnement. Au bout de ses antennes, elle a des yeux qui ne distinguent pas les couleurs et les formes. Par contre, elle voit l'atmosphère jour ou nuit. Ennemie des jardiniers, elle cause des dégâts aux plantes potagères, particulièrement la laitue et la salade. Son rôle dans l'écosystème est de servir de nourriture à d'autres animaux.
Dans la ménagerie d'Eliane.
Bah, nous voilà de retour donc, avec Juan. Non,
juste une question avant. Mais comment on sait qu'elle ne voit pas les couleurs, la limace ?
Parce que c'est les scientifiques qui ont découvert ça.
Ils ont posé la question.
Parce que vu la taille des yeux, elle n'a pas une grande couverture visuelle. Hein. C'est tout au bout des antennes. Ils sont tout petits. Et comment ils ont fait ? Bah, je pense qu'ils lui ont demandé de dessiner.
Il paraît à une époque, on paraît que les limaces soignaient les ulcères.
Ah oui.
Oui, c'est vrai, j'ai lu ça quelque part. Elles soignaient les ulcères également, un peu comme les sangsues aussi. On les mettait sur la peau pour les maladies de la peau.
Et en fait, vous avez parlé de crustacés, donc la famille des cloportes, et c'est la famille des... La limace,
alors, c'est des gastéropodes,
mais de la famille des... Parce que du coup, c'est deux animaux qui viennent, qui vivent aussi dans la mer. Vous aimez les fruits de mer ?
J'adore.
Ah. Les gastéropodes, c'est ceux qui marchent sur le ventre, à ne pas confondre avec certains qui se font marcher sur le ventre.
Alors voilà, donc nous sommes de retour avec José Luis. José Luis, donc nous étions sur la tour de Malévo. Donc, vous nous avez parlé que ça vous a beaucoup inspiré pour, par rapport à... Donc, à cette époque-là, vous travailliez encore à l'usine ou elle fermait?
Pardon. Non, non, à l'époque, l'usine d'Aulnay avait fermé. Mm-hmm. Et j'avais été muté à Saint-Ouen. Mais je savais que l'usine de Saint-Ouen allait fermer. Mm-hmm. Donc, je me demandais ce que j'allais devenir. Parce que plus les années passaient, plus là, j'y montais. Et je ne savais pas du tout dans quoi j'allais me reconvertir. Mm-hmm. Parce que, comme on dit, j'ai quitté l'école, rien dans les mains, rien dans les poches. Mm-hmm. Donc, pas de diplôme, mille métiers, mille misères. Et là, ça a été une parenthèse pour moi, Malévo. La tour de Malévo qui n'existe pas. Mais ça a été une parenthèse enchantée pour moi.
Alors, on peut inscrire vos œuvres dans ce qu'on appelle l'autofiction, parce qu'une partie est authentique et puis une autre partie est complètement fictionnelle. Donc, le héros, c'est un syndicaliste fatigué qui quitte Paris pour venir à Malévo à monter. Et puis, je vais lire quelques petits extraits de la description de l'hôpital. La tour de l'hôpital psychiatrique de Malévo s'aperçoit de loin, dans les cimes helvètes. La brume matinale la rend irréelle. Passée cette impression, à peine le premier tournant amorcé par la voiture, une raffinerie surplombe la vallée, lui servant de banlieue. Deux immenses cheminées déversent leur fumée dans le ciel. La raffinerie est la pièce principale sur l'échiquier d'une suite de petites usines éparpillées. L'endroit donne l'impression d'être dans un film de science-fiction. Le panorama qui défile augmente l'effet futuriste des villages traversés. Une fois ces découvertes faites, je peux que donner mes sentiments. Ensuite, un peu plus loin, la voiture pénètre dans la cour de l'hôpital. Il est situé dans un véritable cratère, avec des montagnes autour comme remparts. Certaines sont enneigées éternellement. Une plaque indique « Nous accueillons des êtres souffrant de troubles, nécessitant prioritairement le soulagement d'une souffrance existentielle ou relationnelle. » Donc, il y a une espèce de mélange où on découvre des choses authentiques, comme on voit très bien, c'est 2015, c'est la grève à la raffinerie Tamoil de Colombey. On voit Malévo, il y a des unités. Alors, comment vous avez mélangé le réel avec l'imaginaire et le fictif?
Ben, comment dire, mes modèles littéraires, c'est trois écrivains qui font dans l'autofiction et qui mélangent le réel et l'imaginaire, c'est Malaparte, Céline et Marcel Proust. Donc en arrivant, rien qu'en arrivant à Malévo, je voyais à peu près l'histoire que je voulais raconter. Et je me dis, c'est peut-être le Moyen-Âge, la Suisse, j'extrapole, je cherche des inventions. Après, grâce à Magdalena, qui travaillait à Malévo, et m'avait donné des documents sur la légende de la Sainte d'Hypna. Donc après, j'avais aussi accès aux légendes de Malévo, comme la Sainte d'Hypna, comme j'ai dit, mais d'autres histoires que Gabriel m'a racontées, ou même au détour, quand je discutais avec quelqu'un que je rencontrais dans les jardins, il me racontait ses histoires ou ses impressions. Et donc, au bout d'un moment, je mixais le tout et il y avait les cauchemars que j'ai faits ou les rêves que je faisais et j'ai tout mélangé pour faire qu'on ne sache pas dans la tour de Malévo et même dans les autres livres que j'écris, qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est réalité. Parce que moi, j'estime qu'au bout d'un moment, quand on a vécu des événements il y a 20 ans, il y a 30 ans ou même avant, ou même il y a 5 jours, au bout d'un moment, ça devient, c'est des souvenirs. Et les souvenirs, après, ils se transforment. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire un endroit idyllique avec des souvenirs. Je sais, par exemple, qu'il y avait un renard dans le parc de Malévo. Je crois que c'est Magdalena qui m'avait raconté ça, qu'elle voyait passer un renard le soir. Je me suis dit, tiens, un renard. Une fois, je m'étais perdu dans le jardin. Dans les jardins, j'ai inventé... comme je revenais la nuit, j'avais été boire des coups en bas et le temps de remonter, je voyais plus tellement où j'en étais. Donc j'ai inventé que j'étais perdu dans les dédales de l'hôpital, alors que j'ai jamais vraiment été perdu. Donc quand j'avais rencontré Blaise Caron avec la raffinerie, j'ai rencontré des personnes qui me racontaient que leur usine allait fermer. Donc ça a été mis dans l'histoire. Après, j'ai un peu transformé les choses.
Mais vous avez l'impression d'être poursuivi par l'histoire automobile, parce que vous avez quitté une grève dans l'automobile pour arriver ici dans une grève dans l'essence.
Oui, oui. Non, c'est l'idée que j'ai eue aussi, c'est de passer de Carif en Sille là. On croit qu'on va être tranquille quelque part et les vieux démons reviennent.
Et c'était la première fois que vous aviez 2 mois de congé ou 2 mois sabbatiques pour écrire ?
Oui, c'est la première fois. Et c'est la première et la dernière.
Et en fait, vous êtes arrivé ici, il n'y avait rien. Et quand vous êtes parti, il y avait ce roman.
Voilà, c'est au moins j'ai laissé quelque chose. Et comme je disais, au bout d'un moment, j'ai même vu la solitude. Parce que des fois, j'allais tous les samedis, dimanches, j'allais voir la famille de ma filleule à Lausanne. Donc je faisais quand même une coupure à Malévo. Mais à un moment donné, je suis resté non-stop à Malévo, un week-end où même c'était un jour férié, il n'y avait personne dans l'hôpital. J'ai quand même eu des moments de solitude et de déprime, mais ça m'a fait du bien et je continuais d'écrire. Et même je m'interrogeais en écrivant, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment utile ce que tu es en train d'écrire ? Parce que c'est quand même... À qui c'est que ça va intéresser ? Parce que Yvan Saint-Saulieu, qui est un sociologue, il m'avait dit de faire une enquête sur l'hôpital, de faire un boulot sociologique. Et quand je lui ai dit, je vais écrire un roman, il a dit, mais c'est complètement fou ce que tu es en train de faire. Il m'a dit, interroge le personnel, interroge les patients, interroge tout le monde et fais une enquête. Mais en 2 mois, c'est impossible.
Et 10 ans plus tard.
Moi, j'ai interrogé, mais j'ai fait un roman. J'ai extrapolé, j'ai fait leur histoire. Oui.
C'était en 2015. On est en 2025.
Oui.
Donc ça fait il y a 10 ans.
Oui.
Est-ce que vous avez relu le texte récemment ?
J'ai dû le relire une fois, mais je ne l'ai plus relu.
Et quel souvenir vous avez alors de ce séjour à Malévo, les 2 mois ?
Comme j'ai dit, un souvenir enchanté. J'étais heureux. Comme il a dit Jean-Pierre Brett quand il a fait une critique de la tour de Malévo, il a dit « on sent qu'il était heureux ».
Jean-Pierre Brett,
c'est un poète bordelais.
Qui écrit
dans un blog littéraire qui s'appelle Critique Livre.com. D'ailleurs, il avait fait une critique de la tour de Malévo. Pas de la tour de Malévo, de l'usine des cadavres. Et je m'étais dit, c'est la première critique qu'on fait sur mon livre. Est-ce qu'il faut quand même écrire aux critiques ? Et je lui ai écrit, il a demandé à me rencontrer et on a sympathisé. Et il a dit, j'étais vraiment heureux en écrivant la tour de Malévo. Que je fais on va dire que je prends peut-être un piédestal, mais je sais que Maurice Pialat, chaque fois qu'il tournait des films, il insultait tout le monde. Il s'engueulait avec tout le monde, mais quand il a tourné La Maison des Bois, une série télé, il était heureux avec tout le monde, il était charmant, comme moi à Malévo.
Donc, il y a Philippe Fagherazzi qui a participé à la création de ce livre. Pouvez-vous nous en parler ?
Pardon ?
Pouvez-vous nous en parler ?
On a sympathisé tout de suite. Il y avait lui et Sandre Chassagne. On n'était que 3 en résidence. Et Philippe Fagherazzi, on mangeait le soir ensemble et il me racontait comment il peignait, ses états d'âme. Et on a sympathisé. D'ailleurs, c'est grâce à lui si le livre il est publié. Parce que quand j'ai rencontré un éditeur, l'éditeur de La Tour de Malévo, dans la soirée, il m'a dit qu'il publiait des livres sur la peinture. Et quand il a vu Résidence artistique avec un peintre, il a dit ton texte m'intéresse.
Alors Philippe Fagherazzi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Sédinois qui fait de la peinture ou de la sculpture, on pourrait dire un peu brute comme ça. Et puis Sandre Chassagne,
c'était une metteur en scène qui a une compagnie de théâtre, la compagnie Barbès. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'elle est grand-mère, donc je salue, j'embrasse son petit enfant. Et je l'ai connu et monté une pièce sur les sorcières dans le Valais, qui avait été montée au théâtre de Malévo. Je crois que le théâtre, il s'appelle le Racco. D'ailleurs, c'est raconté dans mon livre, parce que tout ce que je raconte dans mon livre, même si c'est extrapolé, même si c'est de manière fiction, où j'ai fait... Il y avait vraiment la pièce de théâtre sur les sorcières du Valais, et je parle des sorcières du Valais dans le livre.
Et vous avez parlé des moments de solitude durant votre résidence. À ces moments-là, quelle a été votre source d'inspiration ?
Le jardin, le parc, de me promener ou même d'aller me promener aux alentours de l'hôpital de Malévo et de voir les paysages.
Vous avez découvert des endroits un peu fabuleux ?
Oui, pour moi, tout était fabuleux. Mais je vais dire quelque chose. J'ai eu une critique dans Le Canard Enchaîné sur la tour de Malévo. Il y a quand même une phrase qui l'a sortie dans la critique qui me revient maintenant. Je dis « Tout est propre ici, je me promène, tout est propre. Les rues sont... » J'arrive plus à retrouver la phrase, mais je dis « Les rues sont propres, les rues sont lumineuses, il y a des montagnes partout. » Et après, je dis « Jamais une phrase comme ça ne me serait venue à Saint-Ouen, ou à Aulnay, où c'est des villes industrielles ou quelque chose. » Il a relevé cette phrase-là.
Eliane,
donc, c'est pour ça.
Comment se passe la rédaction d'un livre ? À l'ordinateur, à la main ?
Les deux. D'abord à la main, à l'ordi... en faisant des rencontres. On fait des rencontres. Quand j'ai l'obsession d'écrire un livre, j'ai un mon bloc-notes sur moi. Et quand il y a une idée qui me vient à la tête, je vais la noter. Si je vois quelqu'un qui discute avec moi, qui me donne une bonne phrase, je vais la noter et après, je vais passer à l'ordinateur et travailler le texte.
Merci.
Merci beaucoup.
Mais vous avez écrit, le souvenir que j'ai, c'était ouvrier, écrivain ou écrivain prolétaire. Ça veut dire... Je mets au travail, c'est 8 heures par jour, j'écris, j'ai congé samedi, dimanche, je fais mes 4 pages quotidiennes. Vous avez de la peine à quitter ce rythme du...
Oui, bah, si j'avais pas eu ce rythme-là, j'aurais jamais écrit La Tour de Malévo. Mais je pense que tous les écrivains, ils font la même chose. Même vous, je pense que vous, quand vous écrivez, vous avez un rythme, vous dites « je vais rester 1 heure ou 2 heures ou 4 heures à écrire et je vais pas bouger de mon... » Il faut quand même une discipline. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas la réussite. Hein. Donc, mais c'est vrai que quand je suis venu à Malévo, je pouvais faire ce que je voulais. Hein. Si je voulais, je restais à dormir, j'allais me promener, je ne faisais rien. Et après, le bouquin, il ne se serait jamais écrit. Si je n'avais pas eu la discipline de me lever à 8 heures du matin, d'être à 9 heures du matin dans la salle... que je revois en haut avec mon ordinateur qui m'attend pour me remettre à écrire sans arrêt, le livre, il ne se serait jamais écrit. Et le style, il n'y aurait pas eu de style, il n'y aurait rien eu. Parce que là, j'ai travaillé. Des fois, je prenais même 1 heure ou même plus pour rédiger une phrase, pour la tourner, la malaxer et tout. Donc, une fois, j'ai voulu écrire un autre livre, mais il a été écrit tellement à la va-vite que l'éditeur, il n'y a pas eu la discipline. Moi, je pense que pour écrire un livre, moi, à titre personnel, je serais incapable d'écrire un livre. L'usine, j'ai réussi à l'écrire parce que c'était dans le contexte de la grève. Mais tous les soirs, en rentrant chez moi, je travaillais le texte comme un malade. Et là, j'avais l'action qui me venait. C'est pour ça que l'écriture, elle est nerveuse. Mais La Tour de Malévo, si je n'avais pas été astreint à lever à telle heure et rédiger comme à l'usine, j'aurais jamais écrit La Tour de Malévo. Donc moi, je pense que pour écrire un livre, et si je ne suis pas en résidence artistique ou enfermé quelque part, j'en serais incapable d'écrire un livre.
Donc ça vous demande une discipline d'en
faire.
Oui,
si je n'ai pas cette discipline-là, je n'arriverai pas à écrire. Parce que des fois, il y en a, ils croient qu'une fois Roman Polanski, c'est un nom un peu sulfureux à ne pas trop dire, il avait dit, il y a des gens, ils croient que parce qu'ils ont une caméra, ils vont faire des films. Il avait dit, c'est la même chose que quelqu'un, il aura une feuille de papier, un stylo, c'est pas pour ça qu'il va écrire un livre. Il faut quand même le travail, il faut la discipline, il faut quand même l'agnac, il faut y croire, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a pas, ça sera du mauvais, c'est même pas la peine, mais sinon c'est du fonctionnariat.
Ce qui est assez fort dans cet ouvrage, c'est que les mythes, les histoires qu'on lui a racontées, les pièces de théâtre qu'il a vues, tout sont écrits du même niveau. Par exemple, vous parlez tout à l'heure d'un spectacle qui était créé ici à Malévo qui s'appelait Françoise Sauvée des Flammes. C'est l'histoire vraie d'une femme accusée de sorcellerie qui s'est battue contre cette accusation et qui a fait défiler des centaines de témoins. Et puis finalement, on l'a blanchi. Là. Françoise, je ne sais plus son nom. Alors, un autre extrait pour qu'on comprenne un peu, puis après, vous nous expliquez. Les préparatifs pour la fête de la Saint-Dipna s'intensifient. Le parc du domaine est en ébullition. Les pavillons prennent des couleurs suivant les festivités accueillies. Des hôtes de marque commencent à arriver. Françoise, brûlée vive pendant la grande campagne d'inquisition du XVe siècle, comme tant d'autres, surgit. Je vais la voir dans l'espoir qu'elle donne des nouvelles. Je frappe à sa porte, elle ouvre. La souffrance se voit sur un visage d'une grande beauté, éclairé à la bougie. Sa tignasse blonde s'aperçoit à peine. Une coiffe blanche de laitière la cache à grande partie. Donc on est vraiment dans des moments... On reconnaît Malevo, la fête de Saint-Dipna, le torrent. Et après, d'autres moments, des personnalités romanesques apparaissent. Comment vous faites pour gérer ces divers niveaux, ces divers strates?
Je dirais que j'ai voulu écrire une histoire et... les événements qu'il y avait, une pièce de théâtre ou un rêve, c'était intégré dans l'histoire. Et j'ai essayé de faire, d'après ce que vous dites, j'ai réussi à faire que le mythe et la réalité, on ne sache pas qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est faux. C'est comme, parce que moi, ce qui m'avait frappé quand j'étais arrivé à Malevo, c'est qu'on ne savait pas à qui on parlait. Et ça, j'avais trouvé ça très beau. De ça, on ne sait pas si c'est un patient, si c'est un personnel, un soignant ou un employé. Et moi, j'ai voulu tout mixer aussi, qu'on ne sache pas, en lisant la tour de Malevo, les événements, est-ce que c'est du rêve ou est-ce que c'est de la réalité. Le narrateur, il est dans un rêve, dans un rêve enchanteur. Donc pour lui, tout est vrai. Et le lecteur, il se dira la même chose. Et dans les autres romans que j'écris, c'est la même chose. C'est exactement le style que j'ai pris. Qu'on ne sache pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai.
Mais à la fin, vous savez encore ce qui est vrai et ce qui n'est pas.
J'ai fait une pirouette pour que la fin, on ne sache pas. Mais malheureusement, la fin, j'avais vu... elle est similaire à la fin de... Même si la fin de Allemagne année zéro, elle est plus violente. Moi, je pense que la fin de la tour de Malevo, c'est la même fin que la fin de Allemagne année zéro, c'est le personnage, il monte dans une tour, il gravit des marches. Comme moi, j'avais voulu faire la fin de Vertigo d'Hitchcock, et même à un moment donné dans Elle de Luis Buñuel, où le personnage, il fait monter sa femme dans une tour, et là, le personnage, il monte dans une tour. Et ce que j'ai dit, ce que Gabriel... c'est une phrase qui m'avait... Je ne l'avais pas fait exprès, mais il y en a, il parle de descente aux enfers, alors que le narrateur, il va parler de monter aux enfers.
Et donc, vous êtes venu aussi nous trouver, car il y a un événement spécial demain. Est-ce que vous voulez nous en parler?
Je pense que Gabriel sera plus à même d'en parler que moi, ou sinon, il connaît plus les détails.
D'accord.
Alors oui, demain, à Casanova, chez nos voisins, ici, juste au bas de Malevo, il y a une soirée autour de la littérature ouvrière. La soirée tourne autour de deux auteurs, donc José Luis Toribio, alias Cilien Larios, pour ses ouvrages « L'usine des cadavres »,« L'usine », plus un autre dont on n'a pas parlé, « Donde esta Barcelonette ». Et Joseph Pontus, qui est un auteur français, qui a sorti un ouvrage sur son travail à l'usine en Normandie. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes usines. Nous, quand on pense aux usines, on voit ces mondes noirs, brûlants, avec les hauts fourneaux, les gueules de charbon. Lui, c'est dans les usines du monde agroalimentaire, les usines de crevettes, les usines de poissons. Donc, c'est poisseux, mais c'est blanc, c'est froid, c'est glacial, c'est voire même frigorifique, parce qu'il travaille des fois dans la glace. Et puis, il a eu un succès énorme avec son livre « À la ligne », qui a été tout de suite mis en musique, mis en bande dessinée, mis sur scène. Mais hélas, Joseph Pontus est décédé d'un cancer. Deux ans après la sortie de son livre, il n'a pas pu profiter de son succès. Donc on va parler de Joseph Pontus. On parlera de ces trois œuvres, mais on parlera après, ça sera vraiment des lectures, et pas comme aujourd'hui, avec un lecteur amateur et qui balbutie et qui bégaye, c'est Roland Vouillot qui fera ces lectures. Peut-être juste dire qu'il y a quand même un lien entre Joseph Pontus et José Luis Toribio. Est-ce que je le raconte ou est-ce que je veux le dire?
Oui, vas-y, racontez.
Alors, la première chose, c'est que lorsque... José Luis envoie son manuscrit dans une petite maison d'édition. On lui répond « Ah, mais c'est super, mais on a une petite maison d'édition. On vient de recevoir un ouvrage écrit par un ouvrier. On n'a pas les moyens d'écrire de publier deux ouvrages sur le même thème. » Et cet ouvrier, c'était Pontus. Et deuxième événement où ils se croisent, un jour, José Luis Toribio reçoit un contrat à la maison, un contrat d'édition, et il apprend que... Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
J'apprends malheureusement le décès de M. Joseph Pontus. C'est le même jour où je reçois le contrat d'édition. En allumant la radio, j'apprends que Joseph Pontus est décédé.
Je pense qu'on pourrait passer à une chanson un peu... On avait prévu une chanson un peu de circonstances.
Oui, tout à fait. Oui, alors. Donc on va écouter Chavela Vargas, La Llorona.
La pleureuse.
Non.
Tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Alors, José Luis Toribio, je vous souhaite plein de succès avec votre ouvrage « L'usine ».
Merci.
Et j'aimerais faire deux annonces. Donc demain, on peut se retrouver à 19h à la Casa Nova. C'est la médiathèque de Monté. À partir de 19h, il y aura aussi la présence de Pavillon Nomade. Vous pourrez nous écouter en direct. Et la semaine prochaine... on se donne rendez-vous à Genève et l'émission sera de 14h30 à 15h30. Ça va changer un petit peu nos habitudes parce que l'émission, ça sera une émission spéciale. Alors, je vous souhaite une agréable fin de journée, une bonne soirée. Et au revoir à Eliane, au revoir à José Luis, au revoir à Christian et Gabriel.
Merci.
Et sans oublier Julien à la technique.
Llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero.